Bonsoir à toutes et à tous, c'est Simon, il est 18h sur Radio Campus, bienvenue à bord du Pédalo.
Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le Pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Et au programme de cette émission, on parle de la pièce dansée Profanation. C'est le premier spectacle de la saison 25-26 du CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine. Pour en savoir plus, on reçoit ce soir Suzanne Copin de la communication du lieu. Et puis en fin d'émission, retrouvez Pensée Locale, le rendez-vous reportage réalisé par l'une des 15 radios de la Frappe. Le but, vous emmener à la rencontre d'initiatives qui questionnent la proximité. Aujourd'hui, focus sur les caves d'un HLM transformé en champignonnière, c'est à Saint-Herblain. Un sujet réalisé par la radio Alternante. Voilà, vous savez tout de ce Pédalo du 13 octobre 2025, alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Profanation, c'est le nom de la pièce dansée proposée par le Centre National de Danse Contemporaine mardi et mercredi prochain. Un spectacle de Faustin Lignécoula et Franck Moka avec la danseuse Inès Mangominja. Et pour en parler, je reçois Suzanne Copin. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, chargée de communication au CNDC. Alors, avant de parler du spectacle Profanation, un petit point quand même sur la rentrée du CNDC, avec notamment la semaine dernière l'ouverture de la résidence L'Heure Danse avec Jefta Van Dinter. Comment ça s'est passé ?
Eh ben, c'était une très belle expérience. En fait, c'est un artiste qui travaille sur un spectacle qui est à la fois pensé pour toutes et tous, mais qui a une attention particulière pour le public sourd ou malentendant. Et du coup, on a accueilli pour cette ouverture de résidence des publics sourds et malentendants. Et c'était une très belle rencontre entre les danseuses et danseurs au plateau et ce public que malheureusement, on a peu la chance d'accueillir au CNDC pour l'instant.
Mais si tu es là, c'est avant tout donc, pour nous parler du premier spectacle de la saison, on en parlait tout à l'heure, c'est Profanation. Des artistes qu'on a cités, donc Faustin Lignécoula, Franck Moka et la danseuse Inès Mangominja, qui sont tous les trois originaires du Congo, c'est ça? Est-ce qu'on peut avoir une petite présentation? Qui sont-ils?
Oui, alors en fait le spectacle effectivement est parti de la rencontre, enfin en tout cas Franck Moka et Faustin Lignécoula qui se connaissaient et qui ont déjà travaillé ensemble sur d'autres projets, ont eu envie de construire un spectacle qui questionnait la façon dont les personnes qui vivent aujourd'hui en République démocratique du Congo, et ce depuis plusieurs années, sont confrontées à une guerre et de fortes violences en continu. Et c'était la question de savoir, est-ce que cette violence peut devenir une force créatrice ? Comment transformer la violence pour que ça puisse... comment est-ce qu'ils arrivent aussi à tenir debout malgré cette violence quotidienne ? Et donc, ils ont eu effectivement l'idée de faire appel à cette danseuse Inès Mangominja, qui a fait le choix de devenir danseuse dans un pays déchiré et pays dans lequel la profession de danseuse n'existe pas. On ne peut pas vivre de ce métier-là. Donc voilà, c'est un peu l'alliance de ces trois parcours. Et pour compléter, on peut dire qu'effectivement, Franck Moka, donc il est compositeur de musique et réalisateur de films. Il est aussi au plateau en tant que musicien et ils sont également accompagnés de trois autres musiciens-musiciennes dont Huguette qui est à la batterie et après comme autre instrument on a basse et guitare. Et en fait l'idée c'est un peu de renverser la façon dont la musique traditionnelle au Congo est faite, où la batterie est toujours le rythme de base et les autres instruments improvisent autour. Là, l'idée, c'était de renverser, que ce soit les autres instruments qui posent un peu un rythme et par-dessus la batterie et du coup la force créatrice de cette femme.
En tout cas, on est vraiment sur un spectacle qui, évidemment, est un spectacle qui met en avant la danse, mais aussi beaucoup la musique, finalement.
Oui, du coup, c'est vraiment entre concert et spectacle, puisque donc on a la musique live de ces quatre musiciens-musiciennes au plateau et qui sont vraiment en dialogue permanent avec la danseuse Inès. Donc oui, c'est vraiment entre musique et danse, avec aussi des projections des films réalisés par Franck Moka spécialement pour ce spectacle-là. Donc on peut dire que c'est un peu un spectacle total, dans le sens où il y a toutes ces disciplines visible sur scène, ouais.
Et en ce moment, d'ailleurs, se tient un atelier avec Inès Mangominja. C'est quelque chose d'important de aussi faire se rencontrer les artistes et le public en plus des représentations ?
Oui, tout à fait. Effectivement, ces ateliers, c'est quelque chose qu'on essaye d'organiser au maximum dès que les artistes sont disponibles et ont l'envie aussi de le faire. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va refaire autour de la prochaine création qu'on accueille. C'est un spectacle d'Emmanuelle Huyn. Et Emmanuelle Huyn, elle propose du coup un atelier pendant la période de vacances scolaires, là, le jeudi 23 octobre. Donc sur ce même format de 2 heures pour des personnes qui ont déjà une petite pratique de la danse, mais ça reste ouvert très largement à toutes et tous.
Et d'ailleurs, un autre temps de rencontre est prévu, donc mercredi à 19h, juste avant la mm-hmm. représentation. C'est ça, hein, donc oui. Avec... alors, je ne sais plus si c'est...
C'est avec Faustin Lignécoula, oui. Parce que du coup, c'est le seul artiste qui n'est pas au plateau. Du coup, chorégraphe qui a vraiment fait l'orchestration, on va dire, de la danse. Et c'était difficile pour les autres artistes d'échanger avec le public avant de rentrer sur scène. Mais donc, oui, on a invité Faustin Lignécoula à nous raconter la façon dont le spectacle s'est construit et avoir effectivement cet échange avec le public s'il y a d'ores et déjà des questions, soit pour les personnes qui l'auront vu la veille, s'il y a des personnes qui ont envie de revenir échanger, soit avant même de voir le spectacle, mais en tout cas effectivement comme une sorte d'introduction au spectacle. Ouais.
On commençait un peu tout à l'heure à parler du contenu du spectacle et notamment le lien qu'il peut y avoir avec la situation qu'il y a en République démocratique du Congo, et c'est un spectacle dans la description, ce qui est dit de cette pièce, c'est qui mélange à la fois la colère et le besoin de tenir debout. Est-ce qu'on peut même aller jusqu'à dire qu'il y a vraiment un côté presque résistance dans ce spectacle ?
Oui, carrément. Résistance et effectivement profanation, le titre est assez fort. C'est vrai qu'en République démocratique du Congo, la culture pose la religion catholique notamment un peu au centre. Et du coup, ce sont des artistes qui ont partagé cette religion, mais qui est une religion dans laquelle il y a une sorte de passivité, dans le sens où, enfin, c'est comme ça que Franck Moka et Faustin Lignécoula en parlent, dans le sens où du coup, on s'en remet à Dieu et donc on agit peu. Et là, l'idée de ce spectacle-là, effectivement, c'était de se remettre soi-même en tant qu'individu au centre de ses propres actions et de... Oui, pas d'appeler à prendre les armes, c'est pas du tout le propos, mais en tout cas de se redonner une force d'action personnelle.
Oui, de ne plus subir, d'être vraiment acteur de sa situation.
Ouais.
Et comment est-ce qu'à travers la danse, on arrive à faire, et la musique aussi, on arrive à faire passer ces messages politiques finalement sans discours parlé presque? Comment est-ce qu'on y arrive?
Ben, je pense que ça tient vraiment à l'énergie des interprètes, que ce soit autant la danseuse que les musiciens, musiciennes, et qu'effectivement c'est difficile de mettre des mots dessus et qu'il faut venir le voir pour l'expérimenter. C'est justement... Oui, réussir à faire parler le corps et du coup, en l'occurrence, aussi la musique. Mais dans toute cette rage accumulée, et comment ça peut se traduire corporellement.
Et ça se traduit même, on peut le dire, presque avec, corporellement, on imagine quelque chose de puissant, même avec, les instruments utilisés, beaucoup de percussions, c'est ça qu'on va beaucoup retrouver?
Oui, carrément. Ouais, c'est assez rythmé comme spectacle.
On continue de parler du spectacle Profanation, mais avant, on fait une pause musicale. On écoute le chanteur funk soul italien Claudio Dignotti. Le titre s'appelle Anche per noi et c'est sorti en 1982. A tout de suite dans le pédalo. We'll be right back.
denaro, un padre a tuo figlio. Non ti conosco, ma ti do un consiglio.
C'était Anche per noi de Claudio Dignotti. Vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute du Pédalo. Et on est toujours avec Suzanne Copin pour parler du spectacle Programmation. Alors, dans la description du spectacle, il est écrit que c'est une danse contre l'oubli qui convoque celles et ceux de l'histoire, que l'histoire pardon, a réduit au silence. Comment, enfin, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Je pense que c'est l'idée que ça devient difficile aujourd'hui dans un pays aussi fracturé par la violence et où du coup, c'est difficile de faire confiance aux personnes qui sont autour de soi. Et je pense qu'il y a deux façons de l'entendre. Il y a les personnes qui sont vraiment décédées à cause de ces violences et qui sont du coup réduites au silence parce que décédées. Et je pense qu'il y a aussi l'idée de ne pas oser s'exprimer, pas oser porter une parole, pas oser exprimer son opinion. Donc voilà, c'est une équipe artistique là qui a la chance de tourner en Europe. Le spectacle a été créé en Suisse fin septembre et a tourné à Paris la semaine dernière. Donc là, on est le troisième lieu qui accueille les représentations. Je ne sais pas s'ils auront la chance de pouvoir présenter ce spectacle-là en République démocratique du Congo, mais c'est vrai que c'est un pays où la parole ne semble pas complètement libre.
Mmh. Et un spectacle comme ça, c'est aussi l'occasion de montrer que finalement l'expression artistique à travers la danse et la musique est une autre façon aussi à la fois de lutter, mais aussi de dénoncer des choses, d'exprimer des opinions tout simplement.
Oui, complètement. Effectivement, c'est aussi, enfin, pour le coup, je pense à travers différentes sociétés et au cours des siècles, on a vu aussi que la culture est une façon détournée de s'exprimer, d'exprimer ses opinions et de revendiquer certaines choses, parfois sous des noms dissimulés, qui sont du coup, oui, une façon de se cacher vers d'autres avatars, on va dire. Là, pour l'instant, ils présentent ce spectacle en leur propre nom. Donc oui, je ne sais pas comment ça va évoluer dans leur pays, mais oui, c'est sûr que la culture est un endroit de, on l'espère encore, pour un moment d'expression totale.
Et le fait comme ça de mettre en avant des artistes du monde entier qui viennent parler de problématiques, elles aussi, du monde entier, c'est quelque chose de particulièrement important pour une structure comme le CNDC?
Je pense que dans le projet de Noé Soulier et Marion Colletter, donc qui sont à la direction du CNDC, il y a l'idée de montrer toutes les danses contemporaines. Ils aiment bien rappeler cette chose-là, qu'ils n'entendent pas la danse contemporaine forcément comme une forme esthétique, mais plutôt comme la danse qui se vit et se pratique aujourd'hui. Donc oui, c'est important de pouvoir montrer les danses qui existent partout dans le monde. On va accueillir aussi Lia Rodriguez, qui est une chorégraphe brésilienne reconnue en Europe. Elle sera avec nous au mois de janvier. Et voilà, on accueille aussi d'autres artistes internationaux ou internationales au cours de la saison, mais je pensais à cette artiste-là, Lia Rodriguez, qui a aussi dans ses spectacles un fort propos politique.
Parlons aussi un peu des à côté de ce spectacle, notamment des tarifs, puisque pour la représentation de demain, c'est seulement 5 euros pour les étudiants, c'est ça?
Oui, c'est vrai qu'on a... Ça, c'est quelque chose qu'on partage avec l'équipe du Quai CDN, donc l'équipe qui s'occupe de programmer le théâtre, aussi la musique et la programmation jeune public et cirque au Quai. On s'est mis d'accord pour identifier certaines soirées qu'on propose à 5 euros pour le public étudiant, dans l'idée que le tarif ne doit pas être une barrière, et on essaye de cibler des spectacles qui nous semblent plus évidents et donner aussi envie aux étudiants et étudiantes de revenir ensuite. C'est un peu une porte d'entrée. Mais c'est vrai que cette année, on en a choisi beaucoup. On commence avec Profanation là. D'ailleurs, on a aussi choisi d'ouvrir le tarif à 5 euros sur le mercredi, parce qu'on trouve ça trop dommage que le public étudiant rate ce spectacle, et on a pour l'instant assez peu de réservations pour demain. Donc, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à profiter de ce tarif-là. Mais c'est vrai que tout au long de l'année, on propose aussi ce tarif pour le spectacle que j'évoquais de la chorégraphe brésilienne. Donc ça, ce sera en janvier. Ça s'appelle Borda, et on proposera aussi ce tarif en novembre pour la création d'Emmanuelle Wynne, qui est ancienne directrice du CNDC. Donc voilà, ça avait aussi du sens pour nous de faire connaître cette histoire. Et après, pendant le festival Conversation, là, qui est vraiment notre temps fort, on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a aussi des tarifs à 5 euros sur ce temps fort-là.
Et donc, ça fait plusieurs années que c'est mis en place.
Oui.
Est-ce qu'il y a un constat sur le fait que ça attire vraiment? Ouais. Est-ce que ça fonctionne?
Oui, carrément. Carrément. En fait, on limite ce... On fait un contingent, on appelle ça un quota de place pour que nous on puisse s'y retrouver aussi en termes de billetterie, que l'ensemble de la salle ne soit pas à un tarif de 5 euros. Et ça nous est arrivé plusieurs fois de décider, après concertation avec la direction, de réaugmenter ce quota, parce qu'on était rapidement plein en fait dans le quota qu'on s'était donné. Donc oui, ça fonctionne.
Et malgré ces prix, est-ce que ça reste quand même encore difficile aujourd'hui pour une structure comme le CNDC d'aller chercher un public étudiant qui est peut-être pas forcément le plus évident à toucher ?
Oui, je pense qu'en début d'année, nos équipes sont très présentes sur les forums. Le Talm Day pour Talm, le Campus Day pour l'UA, et il y a aussi un forum à l'UCO. Donc ça permet d'être vraiment physiquement présent, et du coup d'avoir cet échange direct avec les étudiants et étudiantes. Et c'est vraiment ce rapport humain, il fonctionne très bien. Quand on a l'occasion d'échanger avec elles et eux en direct, souvent ça match, on va dire. Après, sur la communication numérique et imprimé, c'est vrai que c'est plus difficile d'être visible parmi l'ensemble des offres qui existent à Angers. On a parfois l'impression d'être un peu noyé dans tout ce qui existe. Mais voilà, il y en a qui savent où nous trouver, et ces forums sont aussi une très belle porte d'entrée. Après, c'est plus parfois aussi le lien avec certains enseignants, enseignantes qui peut débloquer des choses.
Alors, un autre à côté qui est mis en place, là, peut-être plus pour la logistique, dédié aux enfants que les parents n'auraient pas pu faire garder. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ce qui est organisé et mis en place?
Oui, du coup, on appelle ça effectivement des soirées enfants. L'idée, c'est qu'on propose aux parents une solution de garde à très bas prix, 5 euros pour la soirée également. Et c'est à partir de 3 ans. Et l'idée, c'est aussi qu'en fonction du groupe, parce que si c'est que des très jeunes de 3, 4, 5 ans, on va proposer plutôt des ateliers de dessin, ou réfléchir à comment le corps peut aussi se mettre en mouvement via des choses que les enfants arrivent facilement à faire. Mais pour les plus grands, il y a aussi l'idée, souvent à la fin du spectacle, de rentrer dans la salle discrètement pour que les enfants puissent avoir un petit aperçu de la soirée que leurs parents ont passée, et de faire ce lien entre les générations. Et voilà, l'idée, c'est plutôt de proposer un atelier danse pendant ce temps-là, mais ça dépend vraiment du groupe de chaque soir.
Oui, ça peut évoluer.
Ouais.
Et peut-être aussi, pour terminer, un petit mot plus sur ce qui se passe en général dans l'année au CNDC, un petit mot peut-être sur les ateliers danse. qui sont organisés, qu'est-ce qui est mis en place ?
Alors sur les ateliers de danse, en fait on a trois formats d'ateliers. Il y a les ateliers de danse grand format qui sont vraiment ouverts à toutes et tous sans prérequis, enfin il n'y a pas besoin d'avoir une pratique physique régulière ou quoi que ce soit pour y participer. On en a proposé un pour la fête d'ouverture toute fin septembre qui a vraiment rassemblé, je ne sais plus, on était entre 80 et 100 personnes je pense, dans le forum du Quai, donc c'est vraiment l'idée de partager une expérience du mouvement ensemble. Ces ateliers-là, on les propose plutôt au beau jour, parce que le forum du Quai est très agréable, mais en hiver, il commence à être un peu froid. L'idée, c'est quand même vraiment d'avoir un grand espace et de partager ça à plusieurs. Ensuite, il y a ces ateliers plus pour qu'on appelle amateurs, amatrices, donc il faut avoir un tout petit peu quand même de pratique au moins corporelle. Donc ceux-là, ils sont moins réguliers, ils sont vraiment plus liés au spectacle qu'on accueille. Donc là, il y en a un ce soir, effectivement, le prochain avec Emmanuel Lune la semaine prochaine. Et après, c'est les entraînements réguliers des danseuses et danseurs. Donc là, c'est vraiment plus pour un public confirmé. Et ceux-là sont les plus réguliers. Du coup, comme leur nom l'indique, on essaye de faire quasiment toutes les semaines, au moins deux fois par mois.
Eh bien, merci beaucoup, Suzanne Copin, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle, tu es chargée de communication au CNDC. Et pour venir voir Profanation, c'est demain à 20h avec un tarif spécial étudiant de 5 euros. Mais c'est aussi mercredi à 19h. Bonne soirée. Le pédalo, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, on vous propose d'écouter un reportage. C'est notre séquence Pensée locale, l'occasion d'écouter une production de l'une des 15 radios de la Frappe. Le but, vous emmener à la rencontre d'initiatives qui questionnent la proximité. Aujourd'hui, direction la Loire-Atlantique. En 2023, l'association Environnement Solidaire a créé dans le sous-sol d'un immeuble HLM de Saint-Herblain une cave champignonnaire. Cette initiative s'inscrit dans un programme de création d'emplois, d'aide alimentaire, de gestion des encombrants et d'amélioration de la vie quotidienne dans le quartier Bellevue. Pour comprendre comment une idée se transforme en réalité locale, Michel Sourget de la radio Alternante a tendu son micro à Marie-Hélène Nedelec, présidente de l'association Environnement Solidaire, aux salariés et un habitant de l'immeuble.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Environnement Solidaire est une association d'agriculture urbaine, de gestion des encombrants et de services de proximité. En 2023, elle crée une champignonnière dans le sous-sol d'un immeuble HLM où se situe aussi son siège social, dans le quartier Bellevue, côté Saint-Herblain, une commune jouxtant Nantes. Avant de visiter ce lieu souterrain, Marie-Hélène Nedelec, présidente d'Environnement Solidaire, nous décrit très sommairement ce quartier.
C'est un quartier politique de la ville, avec je n'ai pas le pourcentage d'habitat social, mais voilà, c'est un grand quartier qui fait quoi, 15 000 habitants, je crois. Population diverse et variée, avec un certain nombre de personnes aussi en isolement, éloignés de l'emploi et avec lesquels on essaye de monter des projets.
Combien de personnes sont concernées par d'abord l'association Environnement Solidaire et puis par la champignonnière ?
Disons que dans l'association, il y a différents types de possibilités d'intervention. Il y a à la fois des salariés, on a des salariés permanents, des salariés en insertion. On a un certain nombre de bénévoles réguliers et puis des bénévoles occasionnels. Ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que c'est en lien avec l'agriculture. Le mardi, on récupère les invendus du marché de Bellevue et on fait de la redistribution alimentaire et on fait de la cuisine aussi pour cuisiner un certain nombre d'invendus. Donc c'est vrai que mesurer les bénéficiaires, c'est compliqué. Il y a une trentaine de familles qui viennent tous les mardis. Il y a une douzaine de bénévoles qui viennent faire la cuisine et puis autrement il y a les bénévoles sur les différents jardins puisqu'on a une dizaine de jardins qu'on accompagne chez les bailleurs sociaux.
En salariés encadrant, il y a combien de personnes ?
Alors aujourd'hui, parce que du coup on en a deux qui sont absents en ce moment, on doit avoir 6 permanents et 4 personnes en insertion.
La champignonnière voit le jour à des travaux de rénovation.
Oui, on est dans le quartier du Grand Bellevue qui est dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain. Donc ce projet a été mené aussi, soutenu par l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, puisque le sous-sol de cette tour devenait inutilisé. Et l'idée, c'était de se dire comment on peut utiliser cet espace, en faire quelque chose d'utile et aussi donner un peu une image positive aussi, créer de l'emploi sur le quartier pour cette champignonnière. Il y a eu des locaux pour les poubelles, des locaux vélos qui ont été installés. Les gens ont eu des balcons et les caves ont été supprimées parce que c'était source de problèmes plus que de solutions.
Généralement, les caves, c'est pour stocker.
Oui, mais il y avait une utilisation détournée de ces caves qui a fait que ces caves sont supprimées. D'ailleurs, dans la plupart des logements, maintenant, il n'y a plus de caves qui sont mises en place chez les bailleurs sociaux.
On peut cultiver plein de végétaux en cave, mais vous avez choisi les champignons.
On a choisi les champignons et on ne produit pas toutes sortes de champignons. On produit uniquement des pleurotes et des shiitakes. Bio, on est labellisé bio par l'agence du bio pour avoir des produits de qualité et ça permet aussi aux habitants de découvrir ces produits que pour un certain nombre ils ne connaissaient pas jusqu'ici.
Et pourquoi pas les champignons de Paris ?
Les conditions de culture des champignons de Paris sont plus compliquées à mettre en œuvre, notamment aussi avec l'espace dont on dispose puisqu'il faudrait descendre de la tourbe, etc. Enfin, je veux dire, les conditions d'accès ne sont pas très faciles. Et techniquement, c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus facile à vendre. Si on a des champignons de Paris, on sait que c'est beaucoup plus facile à vendre. Mais par contre, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Donc la préférence a été d'abord que les salariés se forment à la culture des pleurotes et des shiitakes. Peut-être un jour les champignons de Paris, mais pour le moment, on se limite aux pleurotes et aux shiitakes.
Je pensais que vous alliez me répondre parce qu'on est à Saint-Herblain, donc on ne peut pas faire des champignons de Paris. Sauf que le champignon de Paris, c'est un peu partout.
Oui, moi je suis originaire d'Anjou, il y en a pas mal dans les caves du Saumurois, entre autres.
Il y a la possibilité aussi de cultiver des plantes. Le pothos fait partie de ces plantes qui nécessitent peu de lumière. Et vous êtes dans la culture nourricière,
oui.
Pas décorative.
Oui, oui, aujourd'hui, on est vraiment axé sur l'alimentation avec les redistributions alimentaires. Voilà les salariés qui vont embaucher, qui se dirigent vers l'entrée de la tour.
Pensée locale, un enjeu de société.
Bonjour Axel, prêt à bosser ?
Dites-nous ce que vous allez faire.
Alors ce matin, nous allons faire la cueillette, la récolte, la veille, l'avant-veille, tout ce qu'on a laissé. Parce que ce n'était pas encore assez mature. On a laissé des petits champignons. On réceptionne des pins de substrat aussi. Donc, c'est la même variété de champignons, puisque nous en faisons deux, les shiitake et les pleurotes. Nous allons réceptionner donc des pins de substrat de shiitake. Je ne sais pas si on a fait une préparation de commande hier. Donc, nous allons livrer au carré des services. C'est toi qui t'en es occupé, mon collègue. Nous allons aller livrer au carré des services nos caisses de champignons. Voilà, pour ce matin, je crois.
Est-ce que ces ballots sont lourds à porter ?
Ah non, les pains de substrat, ça fait quoi ? 1,5 kg ? 2 kilos ? Je sais pas, c'est des pains qui font 50 sur 20.
Je pense que c'est une tonne à chaque fois, à chaque livraison, une tonne de substrat qui arrive et qu'il faut descendre.
Donc c'est quand même quelques pains. Ça va être ma première livraison de pains, en ce qui me concerne.
On va descendre avec toi, Violette ?
Ouais.
Nous nous dirigeons.
On se dirige à la champignonnière, donc on passe par le hall de l'immeuble.
C'est bien de me décrire l'itinéraire.
Et on fait comme si on allait dans une cave d'immeuble. Donc il faut un peu imaginer le truc. Nous sommes arrivés dans la champignonnière. La première salle par laquelle on passe, c'est la salle de nettoyage. Dès qu'on arrive, en fait, on se lave les mains, on se désinfecte les mains pour rentrer dans les conditions, les normes sanitaires voulues. On a aussi tout l'espace pour nettoyer toutes les caisses qui nous servent à conditionner les champignons par la suite. Donc c'est vraiment la salle de nettoyage-désinfection.
On est bien dans un sous-sol d'immeuble.
Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, la champignonnière ne bat pas encore son plein. C'est pour ça qu'on reçoit encore du substrat aujourd'hui. Mais à la place de chaque ancienne cave individuelle, on a tout le matériel qui est fait pour installer les substrats de champignons qui vont pousser plus tard.
Les portes ont été remplacées ?
Oui, les portes ont été remplacées par des lanières en plastique pour éviter justement la transmission de spores et d'autres champignons de salle en salle.
Une des premières choses qui a été mise en place, c'est une chambre froide, puisque pour conserver les champignons et les substrats, on avait fait une expérimentation avant, mais sans chambre froide. Et du coup, une fois que ça sortait, il fallait tout vendre aussitôt, etc. Alors c'est une chambre froide qui a été montée sur place. On est obligé ici d'avoir du matériel qui est imaginé, construit sur place, puisque dans l'ascenseur, on ne peut pas passer des gros volumes. Donc tout ça, ça a été monté avec Romain du champignon urbain qui nous a accompagnés pour imaginer quel système on pouvait mettre ici pour la ventilation, l'extraction, etc.
Je vois que vous acceptez les araignées.
Ah ben ça fait partie des habitants du sous-sol.
Voilà. Oui, c'est pas contre-indiqué pour les champignons.
Non, ils sont là dans ce couloir, mais dans les salles, vous n'allez pas trouver le même... On est contrôlé par l'agence bio, labellisé, donc voilà.
Là, c'est les pleurotes, ici.
Comment on les reconnaît ?
Pour les pleurotes, il y a un plastique noir autour qui est pré-percé. Et quand le champignon sort, il sort par ces trous-là. Ça sort en bouquet. Je ne sais pas s'il y a une des salles où il y a des bouquets sortis.
En tout cas, il y a une odeur sympathique.
Oui, bah ça sent l'humus, voilà.
Voilà, la cueillette.
On est sur du
shiitake.
Votre rôle, c'est de cueillir les champignons.
Oui, c'est moi qui ramasse tout.
Dès qu'ils sont sortis, vous les cueillez.
Oui.
Qu'ils soient petits ou gros.
C'est gros.
Les petits, vous les laissez ?
Des jours, deux jours, trois jours.
Ça met combien de temps à pousser un champignon ?
15 jours.
15 jours. Votre prénom ?
C'est Mouagui.
Tout n'est pas en culture encore. On fait au fur et à mesure, puisqu'on a fait une interruption pendant l'été. L'été n'est pas propice à la culture des champignons et ça permet aussi d'avoir les congés des salariés. Et on a redémarré en septembre la mise en culture, donc on va monter progressivement sur le nombre de salles. Et puis après, la problématique, c'est aussi il faut trouver des débouchés, il ne faut pas seulement les produire.
Les ascenseurs sont condamnés ?
Non, ils ne sont pas du tout condamnés. Il y a un code d'accès pour pouvoir descendre au sous-sol. On limite quand même les accès.
On va sortir. Vous êtes un consommateur de champignons ?
Un grain. Surtout habitant de l'immeuble.
Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ?
C'est un projet formidable. Parce que déjà, comme vous savez, ici dans notre immeuble, les caves là, c'était l'enfer. C'était que des petits jeunes qui squattaient en bas et faire le bordel. Donc là, maintenant qu'on a réussi à retirer des bénéfices pareils pour les habitants, surtout.
Merci à Marie-Hélène Nedelec et merci à...
Axel,
Violette, Mouagui,
Fadi.
Pour leur libre participation à ce reportage sur la champignonnière gérée par l'association Environnement Solidaire de Saint-Herblain.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Michel Sourget pour Alternante FM.
Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.environnement-solidaire.org. Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Mathias, à la technique. La programmation continue sur le 103 FM, alors restez bien avec nous. Et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.